Mais comme c'est aujourd'hui la clôture de la fête de la Nativité, pour la majeure partie d'entre nous, tout du moins, j'en profite pour essayer de vous le dire aujourd'hui. Bien que vous voyez, ça a eu le temps, ça aurait pu avoir le temps de mûrir, puisque j'y pensais déjà pendant la fête et même avant la fête. Je n'ai pas de plan défini et je vais peut-être avoir un peu de mal à vous dire, avec une logique compréhensible, la profondeur d'un mystère, le mystère de la nativité précisément. Parce que dans nos pays, nous sommes évidemment influencés, même si on n'a pas fait de catéchisme élaboré, et par le contexte civilisationnel, disons, appelons-le comme ça, dans lequel nous sommes influencés par la conception, par la théologie de la rédemption vue par l'Occident. Et il nous est naturel, ou presque, si on a la foi, de penser que l'on est racheté, déjà racheté. Racheté à qui ? Pourquoi on est racheté ? Ou pourquoi serait-on racheté ? Pourquoi faut-il un rachat ? Que nous serions donc rachetés par le sacrifice, autrement dit la souffrance, et le sang versé par le Christ. Et dans ce que je vais dire, ne pensez pas évidemment un seul instant que j'ai l'intention de rabaisser le rôle de la croix et du sacrifice que le Christ a offert sur la croix. Mais le sacrifice qu'il a offert n'a pas été un don de son sang et de sa souffrance offert à son Père pour le calmer de sa colère qui aurait été due à notre péché. Donc, à ce point de vue-là, il n'y a pas besoin de rachat. Par contre, comme les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices dans l'Ancien Testament n'étaient pas un rachat de quoi que ce soit, même si quelquefois le terme a été utilisé et à bon escient, il ne s'agissait pas, les sacrifices n'étaient pas un rachat. Il s'agissait d'un sceau, ou d'un scellement, si vous voulez, d'un sceau pour un contrat. Les sacrifices offerts, les sacrifices sanglants, étaient conséquence, le signe d'un sceau, d'une alliance entre Dieu et l'homme, mais pas un rachat. Mon but n'est pas de faire la théologie aujourd'hui des sacrifices. Je vous le dis simplement, entre parenthèses, pour montrer que nous, dans l'orthodoxie, nous sommes sensibles à un autre aspect. Ce qui m'amène à vous dire que j'ai déjà évoqué ça quelquefois d'autres années, que la fête de ce que nous célébrons, ce que nous solennisons à Noël est au moins aussi grand et aussi important, peut-être même plus insondable même, plus incompréhensible, plus merveilleux que ce que nous célébrons à Pâques. En effet, quel est, si je puis prendre ce vocabulaire-là, quel est le sacrifice le plus grand qu'a offert la seconde personne de la Trinité, la souffrance, qui devait être extraordinaire, certainement, de sa mort sur la croix et de son sang versé, avec l'abandon des uns et des autres, enfin tout ce que vous savez et que vous vivez tous les ans et tous les jours sur le sens de la croix. Mais c'est ça, ou c'est son incarnation. C'est ça, c'est le sacrifice sur la croix, sa mort, suivi de la résurrection, ou c'est le fait que Dieu se soit abaissé, se soit humilié pour prendre une nature qui n'était pas la sienne, pour prendre la nature de sa créature, la nature de l'homme, en renonçant à l'exercice de la gloire qu'il a en tant que Dieu et qui dont l'aboutissement est effectivement la croix ignominieuse, la souffrance, la mort et l'humiliation de la croix et tout ce que vous en savez et que vous méditez. Donc, le Vendredi Saint, et Pâques sont la conséquence de cette incarnation. Mais cette incarnation, c'est sûrement le phénomène le plus extraordinaire et le plus incompréhensible qui soit dans notre foi. Que Dieu, l'incréé, Dieu Tout-Puissant, se fasse tout petit jusqu'à entrer dans le sein d'une femme pour croître peu à peu, pour grandir, pour apprendre et pour souffrir. Pour souffrir, c'est pas ça que je voulais dire. Pour supporter toutes les conséquences de notre vie, y compris la souffrance et la mort, bien sûr, mais de supporter la tentation, de supporter la faim, de supporter la souffrance, de supporter les tentations, de supporter la lutte, la résistance des pensées aux suggestions mauvaises, le renoncement perpétuel à sa volonté humaine pour la conditionner, la mettre en conformité avec la volonté de son Père, donc la sienne en tant que Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça le plus grand mystère? Et quand je pose la question, je veux dire que j'y réponds évidemment par l'affirmative. Et les conséquences de cette incarnation ont été exprimées, ont été explicitées et cadrées, si je puis dire, non seulement par les Saintes Écritures, par les Évangiles tels qu'ils nous ont été transmis, mais par les premiers conciles où les pères conciliaires se sont interrogés à la suite des erreurs qui se propageaient dans l'Église pour savoir qu'est-ce qu'il en était exactement des relations entre les personnes divines, entre elles, et les relations entre le Christ notamment, les personnes divines, et les hommes. Nous retenons sans aucune difficulté, sans presque pas de difficulté, nous retenons assez facilement une partie de la définition du Concile de Chalcédoine, où nous reconnaissons que le Christ possède deux natures et que ces natures sont unies sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Retenez ça par cœur, méditez-le et vous en avez pour un petit moment de méditation. Mais ça ne m'empêche pas d'aller plus loin quand même en attendant. Ce concile-là avait lieu en 451. En un peu plus de 100 ans avant, en 325, premier concile de Nicée, où les pères définissent que le Christ est consubstantiel au Père. Et cette définition-là est fondamentale, elle montre l'intimité, elle montre la relation qui existe entre le Fils incarné et le Père. Concile qui a été confirmé, si je puis dire, quelques années après, 60 ans après, par le Concile de Constantinople, dont nous vivons tous les jours. Mais à la suite de ces deux conciles, ces deux conciles-là qui ont déterminé, si je puis dire, le credo, le pistevo, le je crois en Dieu que vous connaissez par cœur et que vous chantez avec toute votre foi et qui est le résumé de notre foi chrétienne. Mais il a fallu encore préciser Donc, préciser les choses, et dans le même concile de Chalcédoine que j'ai évoqué en commençant, où il était dit que le Christ réunissait en lui deux natures, humaine et divine, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Et il est dit aussi, les pères ont dit avec le plus de solennité possible, à la suite des saints pères, donc, nous enseignons tous unanimement, c'est vraiment montrer que c'est l'essentiel de notre foi. Nous enseignons donc tous unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et je vais en arriver à cet élément de phrase, le même, ils insistent, les pères, le même, notre Seigneur Jésus-Christ, parfait en sa divinité, et le même, parfait en son humanité. Le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité. Ici, nous avons un nœud que je ne vais pas pouvoir complètement expliquer aujourd'hui. Le même consubstantiel au Père selon sa divinité, le même consubstantiel à nous selon l'humanité. Et très souvent, cette seconde expression, consubstantiel à nous, est interprétée dans notre monde occidental tout du moins, d'une autre manière que dans une manière moins forte, moins profonde, moins systématique, disons, c'est un autre mot que je voudrais dire, mais je ne le trouve pas, que la première expression selon qu'il serait consubstantiel au Père, selon sa divinité. Et pourtant, depuis tant d'années où les Pères s'opposaient aux hérésies, depuis le temps qu'ils discutaient entre eux pour savoir où était la vérité, croyez-vous que s'ils insistent dans cette définition officielle de notre foi, non, le même consubstantiel au Père, le même consubstantiel à nous, ne croyez-vous pas que les Pères avaient une conscience vive de ce que signifiait ce parallèle mis entre les deux expressions? Ce qui veut dire, et ça je vous en parle assez souvent, ce qui veut dire qu'il y a entre nous les hommes une union de nature, en Christ bien sûr, aussi profonde, aussi importante, aussi fondamentale qu'il y a entre le Christ et son Père. Et nous sommes créés, si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est notamment cela. Il y a quelque part, j'ai lu ces temps-ci en préparant le thème de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, j'ai lu quelque part une citation, mais je suis incapable de la retrouver tout de suite. Une expression d'un père, c'était Saint Grégoire de Nice, autant que je m'en souvienne, qui montrait que les trois personnes divines forment une unité divine, un seul Dieu, et que, mais en trois personnes, alors que des milliards d'hommes de la création forment aussi une seule nature, un seul corps entre eux, si vous voulez. Et le Christ ayant adopté cette nature, les hommes par le Christ qui adoptent leur nature, mais qui possède aussi cette nature divine, par lui, il fait partager la divinité aux hommes que nous sommes. Et ça, pas simplement à ceux qui sommes baptisés, mais à tous les hommes, du fait que nous soyons consubstantiels par notre nature. Ce qui ne veut pas dire que notre baptême ne serve à rien, que nos baptêmes ne servent à rien. Nos baptêmes nous donnent une vocation, une connaissance expérimentale de ce que nous sommes en train d'affirmer théologiquement, mais aussi une vocation qui nous mène à répandre, parce que nous avons reçu cette grâce par le baptême, à répandre autour de nous, à travers notre ministère, pas seulement le ministère sacerdotal du prêtre ou de l'évêque qui célèbre la liturgie, mais le ministère sacerdotal de tout chrétien qui est amené à répandre par sa prière, par sa foi, par son ascèse et par sa communion à Dieu d'une part, mais sa communion à tous les hommes, son amour pour tous les hommes d'autre part, à répandre ce salut qui est la participation à la vie de Dieu. Et c'est ceci qu'implique, c'est pas la célébration, mais la réalité de l'incarnation que nous célébrons pour Noël, et c'est ça qui aboutit à travers historiquement la croix et la résurrection et l'ascension, qui aboutit au salut de l'homme. Et quel est le salut de l'humanité? C'est précisément cette communion, cette réception par tous les hommes de la vie divine, c'est-à-dire, les pères grecs n'ont pas hésité à le dire, à être divinisés, à devenir Dieu. Entendez bien, évidemment, il ne s'agit pas de devenir des dieux rivaux du seul Dieu que nous connaissons, mais d'être associés à lui en tant qu'être humain, en tant que personnes humaines, être associés à Dieu pour acquérir une nature par grâce, comme le Christ a adopté notre propre nature en échange, si vous voulez, de la nature humaine que le Christ a adoptée, c'est bien ça. Et cette réalité-là, nous l'avons rabâchée, chantée plusieurs fois depuis l'avant-fête de Noël jusqu'à aujourd'hui, dans les canons, dans les tropères et ça, où on parle d'un admirable échange. Un admirable échange parce que Dieu adopte la nature humaine de manière à ce que la nature humaine hérite de la nature divine. Là est notre salut. Et voyez bien que là-dedans, il n'y a aucune notion de rachat et aucune notion de sacrifice en soi. Il y a des sacrifices, mais ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas la souffrance, quelle qu'elle soit, qui nous rachète, c'est la miséricorde de Dieu qui descend en nous, descend dans le sens de la kénose, qui s'humilie pour descendre en nous, de manière à nous élever à une condition qui n'était pas la nôtre depuis le péché, bien que ce fût quand même notre vocation, ce pourquoi nous avions été créés à l'origine. Je ne peux pas dire cette notion, mais cette idée que j'essaie de vous présenter maladroitement aujourd'hui, montre à quel point nous sommes tous solidaires, plus que solidaires, nous sommes tous unis les uns aux autres. Et pas simplement nous qui étions à la liturgie ce matin, pas simplement à tous ceux qui sont à la liturgie aujourd'hui dimanche, pas simplement tous nos contemporains, mais vraiment tous les hommes unis en Christ. Et au moment, vous ne voyez pas ce rite-là, mais juste avant la communion, quand le rideau est refermé, parce que là se passe un mystère qui est invisible même pour le prêtre, le prêtre prend l'agneau, c'est-à-dire la partie de la prosphore qui a été découpée pour qu'elle soit consacrée et devienne le corps du Christ, et le sépare en quatre parts. Et en même temps, dit ces paroles, est rompu et partagé, rompu mais non divisé, toujours mangé mais jamais épuisé. Cette expression montre que le sacrifice de la croix en tant que sceau, comme je vous disais tout à l'heure, est le don de par le Christ de son corps et de son sang, c'est-à-dire de sa nature divine et de sa vie elle-même. C'est un don que le Seigneur opère par sa mort, et ceci auquel nous avons accès, non pas en le renouvelant une multitude de fois à chaque fois que nous célébrons la liturgie ici ou ailleurs, depuis le début de l'Église jusqu'à la fin, mais que c'est un miracle extraordinaire qui nous est donné de vivre, d'être transporté au-delà du temps et au-delà de l'espace, au moment même de cet unique sacrifice du Christ, que l'on ne renouvelle pas, mais auquel on reparticipe, si je puis dire, à chaque fois que nous célébrons la liturgie et que nous communions. Et ainsi, quand on partage, quand on rompt plus exactement l'agneau consacré à la liturgie, on exprime, on montre, pas par un symbole, mais on vit véritablement ce partage sans division de la nature et de la vie du Christ. Vous comprenez bien que nous étions combien, 70 ce matin ? Nous avons coupé l'agneau en 70 parcelles pour que chacun puisse communier. Est-ce que ça voulait dire que chacun d'entre nous n'avons eu qu'un 70e du corps du Christ ? Bien sûr que non, nous avons eu le corps du Christ tout entier, chacun d'entre nous. Mais ceux qui ont célébré la liturgie à Vladivostok ou à Tokyo ont aussi l'intégralité du corps du Christ. Mais ceux qui ont célébré à New York ou à Vancouver la liturgie il y a 50 ans ont aussi communié à l'intégralité de la nature et de la vie du Christ. Ainsi, il y a un don perpétuel auquel nous sommes appelés à participer, mais sans jamais l'épuiser et sans qu'il y ait aucune division. Ce qui montre bien à quel point, par cette incarnation et à travers les sacrements, notamment l'Eucharistie, comment nous sommes unis les uns aux autres. Ce qui fait que, dans cette union les uns aux autres, vous comprenez bien que la qualité de notre relation personnelle les uns les autres est fondamentale pour l'éclosion, pour la maturité, pour que les sacrements soient vraiment parachevés par notre attitude, que ce soit pas simplement une réception, mais que ce soit une participation à une vie unique. Si nous sommes vraiment un corps, le corps du Christ, comment peut-il y avoir entre nous des divisions ? Comment peut-il y avoir des haines ? Comment peut-il y avoir des rancunes, etc. Aimez-vous les uns les autres, bienheureux les cœurs purs, bienheureux toutes les béatitudes, tout ce que nous entendons, tout ce que nous des paroles du Christ dans l'Évangile. Et tous les exemples qu'il nous a donnés sont toujours une manifestation de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres à travers le Christ. C'est la raison pour laquelle, pendant la liturgie, juste avant la proclamation du credo, nous disons « Aimons-nous les uns les autres afin » que dans un même esprit, nous proclamions le Père, le Fils, nous confessions le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il n'y a pas cette unité entre nous, pas entre nous les 70, mais entre tous, il n'y a pas de manifestation de cette unité de Dieu et des hommes qui existe réellement, mais nous ne la manifestons pas. Pour que cette union se manifeste, il faut encore que nous la réalisions entre nous. Et ça, évidemment, amène une autre forme de sacrifice, un autre contrat, comme je l'évoquais, un contrat les uns avec les autres, où chacun est appelé à renoncer à sa volonté propre pour faire la volonté de l'autre, de la mesure où elle est correcte, évidemment. Notre vocation, notre place, notre rôle dans ce monde, le peu de temps où nous sommes sur cette terre, c'est d'accomplir ce que le Christ a accompli lui-même dans sa kénose, en lui a renoncé à sa gloire pour se faire semblable à tous les hommes, pour se faire un avec tous les hommes, et nous-mêmes, nous sommes appelés à renoncer à notre fausse gloire, à notre individualisme, si vous voulez, à notre quant à soi, pour faire la volonté des autres et ainsi manifester concrètement l'union entre nous qui est qui illustre, qui montre, qui manifeste aux yeux du monde l'union de Dieu et des hommes, et c'est ça notre salut. Quand le Seigneur nous dit cherchez le royaume de Dieu au-dedans de vous, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher le Christ en soi comme étant extérieur à soi, mais tout d'un coup qui viendrait quelque part dans un endroit secret de notre être. Mais cela veut dire que par notre vie tellement unie au Christ et les uns avec les autres, ce salut-là nous est donné. Et c'est là la présence, c'est cela la présence de la présence du Christ, Dieu et homme, pas simplement Dieu, pas simplement homme, mais Dieu et homme. Et c'est à nous de manifester ce mystère-là. Et vous voyez que si nous comprenons ainsi notre salut, notre vie humaine, notre vie concrète, j'allais dire, notre vie de tous les jours, plus exactement, prend un autre sens. Et nos efforts, nos conversions, nos chutes aussi, prennent une autre dimension et prennent véritablement leur place dans cette pédagogie que Dieu a à notre égard pour petit à petit nous amener à faire un retournement intérieur et à nous présenter non pas simplement comme des hommes plus ou moins joyeux de vivre, mais comme des hommes porteurs de l'Esprit Saint, porteurs du Christ, des hommes christophores.